Radio Okapi. Oh, Okapi.
Il est 15h à Kinshasa, 16h à Bunia. Bienvenue à l'écoute du journal, dont voici sans plus tarder les titres. La société civile Force Vive de l'Ituri demande au chef de l'État de remplacer dans les 10 jours qui suivent le gouverneur militaire de l'Ituri. Certains observateurs doutent de l'opportunité de cette demande au moment où les efforts devraient être unis pour accompagner les autorités à neutraliser les groupes armés. Dans la province du Bas-Ouélé, le marché central de la chefferie Ezo à Dakwa a pris feu lundi dernier en pleine journée. Bilan, 200 étagères et hangars brûlés et plusieurs boutiques consumées par le feu dont l'origine reste inconnue jusque-là. L'invité de ce journal est le chargé des programmes de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Ndamana Dominique parle des signes de dégradation des paysages forestiers dans la province du Maniema. Bon après-midi chez vous. La coordination provinciale de la société civile Force Vive de l'Ituri demande au chef de l'État de remplacer dans les 10 jours qui suivent le gouverneur militaire de cette province. Dans un mémorandum lu devant la presse hier mardi à Bunia, cette structure citoyenne estime que l'actuelle équipe a failli à sa mission d'arrêter les crimes et autres violations massives des droits de l'homme perpétrés par des groupes armés dans la province. Cependant, certains observateurs doutent de l'opportunité de formuler une telle demande au moment où les efforts devraient être unis pour accompagner les autorités à neutraliser ces hors-la-loi. Le point dans ce dossier du jour avec Jean-Claude Lokidile.
La société civile motive sa démarche par le fait que la population de l'Ituri est contrainte de vivre dans une insécurité presque totale. Son président, Dieudonné Lossa, cite entre autres les massacres des civils qui ont eu lieu dans plusieurs sites de déplacés dans les territoires de Djougou et Irumu. Pour cet acteur de la société civile, il est temps que le président de la République tire les conséquences de l'état des sièges en Ituri.
L'autorité qu'on a n'a pas réussi à mettre en place des stratégies pour arrêter les massacres et qui a lieu de le remplacer pour donner la chance à quelqu'un d'autre qui peut amener de nouvelles stratégies afin d'arrêter immédiatement le massacre à la province de l'Ituri.
Pour certains analystes, le moment est mal indiqué pour demander le départ de l'actuelle équipe du gouvernement provincial. Ils estiment qu'il faut plutôt soutenir les efforts des autorités pour endiguer les violences qui malheureusement continuent à hanter cette partie du pays. Le lieutenant Jules Ngongo, le porte-parole de l'armée en Ituri, parle de son côté d'acharnement contre la personne du gouverneur militaire de l'Ituri.
La personne du général Luboya met à mal les intérêts des uns et des autres parce que c'est un homme qui lutte contre le mafia qui est en train d'appauvrir la province. Nous sommes en train de monter petit à petit en puissance pour résoudre le problème des Ituriens.
Un avis que ne partagent pas cependant de nombreux habitants qui pensent que la patience a atteint ses limites. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
À Goma, 5 morts et 3 blessés graves. C'est le bilan d'une fusillade enregistrée hier soir dans un lieu de deuil au quartier Majengo, dans la commune de Karisimbi. Le drame s'est passé dans une famille qui venait de perdre un fils de 26 ans, tué par balle la veille au quartier Virunga, dans la même commune. Le chef de quartier Majengo, qui donne ces informations, indique que les services de sécurité ont ouvert des enquêtes pour dénicher les inciviques auteurs de ces meurtres. Sifa Maguru pour les détails.
D'après le chef de quartier, l'incident s'est produit vers 20h locales. Le deuil s'était né au domicile de la famille de Madame Feza Nyandui, qui venait de perdre son fils de 26 ans dans la nuit du lundi à mardi au quartier Virunga. Les circonstances de son assassinat, pour l'instant, ne sont pas encore élucidées, même si les corps devraient être enterrés ce mercredi. Germain Abawéjé ajoute que 2 inciviques portant des armes dans un sac sont arrivés au lieu du deuil et se sont mis à tirer plusieurs coups de feu qui ont coûté la vie à 5 personnes, dont une femme sur les champs et 3 autres blessés qui sont pris en charge à l'hôpital Sebekandoshu. Pour l'instant, il est difficile d'identifier les assaillants ni les mobiles de leurs crimes, mais les services spécialisés ont ouvert des enquêtes précises ce cadre des bases. Rappelons que ces genres d'incidents sécuritaires sont enregistrés au quotidien dans la ville de Goma et ses environs, et ce, malgré les dispositifs sécuritaires mis en place par les autorités, notamment le couvre-feu, déplorent plusieurs observateurs. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
À Beni, pendant ce temps, la Convention pour le respect des droits humains, CRDH, plaide pour des opérations militaires simultanées dans la région limitrophe du territoire de Mambasa en Ituri et de Beni au Nord Kivu, où les exactions des rebelles ADF sur les civils sont toujours signalées. Tout en saluant les efforts des forces conjointes dans la région, cette structure de défense des droits de l'homme plaide également pour la suppression des barrières illégales, notamment sur le tronçon Beni-Biakato-Mambasa. Maître Eli Kiyonga, chargé de monitoring de la CRDH dans la région de Beni, le dit au micro de Marc Marofimbo.
La CRDH soutient les opérations conjointes FRDC-UPDF du grand travail qu'ils sont en train d'embattre, de faire sur le terrain. Néanmoins, la CRDH condamne également le tuyérisme sporadique qui sévissent sans et là, malgré la surmilitarisation dans la région. C'est pourquoi la CRDH recommande aux décideurs de mener des opérations conjointes simultanées à territoire de Beni, Mambasa et Irum. Également, la CRDH recommande aux autorités de l'état de siège et sollicite leur implication dans la suppression de toutes les barrières illégales sur les tronçons Beni-Biakato-Mambasa sur la RN44 et dans les tronçons Beni-Komanda-Bunia sur la RN44.
Dans la ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, la police nationale a présenté hier mardi au gouverneur de la province 10 présumés criminels. La cérémonie a eu lieu au commissariat provincial de la police en présence de plusieurs cadres des services de sécurité. Ces bandits urbains ont été appréhendés lors des opérations de traque des scènes civiques organisées dans la ville afin de lutter contre la recrudescence de la criminalité qui bat son plein ces derniers jours à Bandunduville. C'est ce qu'a déclaré le commissaire provincial de la police de Kwilu. Pour le général Kanold Kamana, cette haute criminalité est causée par la libération de certains criminels bénéficiaires des grâces présidentielles. Irène Mboma pour plus de explications.
Ces 10 malfrats présentés mardi au gouverneur de province, dont une femme, ont été appréhendés par la police avec notamment des armes blanches, du chanvre et plusieurs objets volés lors de leurs opérations. À l'occasion de leur présentation, le commissaire provincial de la police du Kwilu a indiqué que la ville de Bandundu connaît ces derniers jours une recrudescence avérée de la criminalité qui enlève la paix des paisibles citoyens. Le général Kanold Kamana en dit les causes.
Il y a eu plusieurs criminels qui ont eu la grâce présidentielle, qui sont dans la ville, et il y a eu un regain de la criminalité urbaine dans la ville de Bandundu. L'instruction avait été donnée pour que nous puissions redynamiser nos services de patrouille et autres, afin que nous puissions mettre ces bandits Kuluna hors état de nuire.
Pour sa part, Félicien Kiwai, vice-gouverneur du Kwilu, s'est exprimé en ces mots.
Je souhaite que nous puissions voir aussi les procureurs. Et maintenant que les victimes sont là, il a fallu que dans 2 jours qu'il y ait audience publique, la police peut demander les moyens pour les déférer ailleurs. Ça, c'est très dangereux. Général, je ne sais quoi dire que vous remerciez de la mission régalienne que vous êtes en train de rendre à la population des Bandou.
Félicien Kiwai invite la population à dénoncer toutes les cachettes de ces hors-la-loi afin qu'il soit mis hors d'état de nuire. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Au Nord Kivu encore, la coordination provinciale de la société civile exige des enquêtes approfondies de l'IGF et du ministère de la Justice sur l'utilisation des fonds alloués par le gouvernement pour la prise en charge des détenus dans les prisons de la province. Cet appel est justifié par la mauvaise situation sanitaire, alimentaire, hygiénique qui prévaut actuellement dans ces établissements pénitentiaires. Le point avec Gabriel Ouaménia.
Ce verdict va servir de leçon à ces hommes, maris ou époux, concubins, qui s'aventurent à considérer la femme comme un objet et qui pensent que la vie d'une femme, c'est comme la vie d'un insecte, oubliant que même à travers le monde, il y a des pays où les insectes sont protégés et que personne n'a droit de tuer un insecte. Celui qui a tué son épouse, qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce que la communauté caractérisée par les violences basées sur le genre, les violences conjugales, qu'est-ce que la communauté ressent? Et moi, je pense que après ce verdict et tous les hommes qui ont participé publiquement à cette audience foraine, si on essaie de jauger leur température, hein, la fièvre a monté à une vitesse de croisière.
Et il s'agit là du verdict rendu par le tribunal de grande instance de Kamituga. Et c'était Solange Luachiga, défenseur des droits des femmes, qui s'exprimait au micro de Cynthia Bachizina Bizana. Comme vous le savez, au sud Kivu, dans le territoire de Mwenga, Ce verdict dans le procès Charline Kitoko, une femme journaliste à Kamituga, morte en janvier dernier. Son mari, principal accusé, a été reconnu coupable de meurtre. Il a écopé de 15 ans de prison ferme. Il devra également s'acquitter des dommages et intérêts de 50 000 $ pour la famille de la journaliste morte et 1 000 000 de francs congolais à payer à l'État congolais. Ce procès qui a été salué par les caucus des associations des droits des femmes. Dans la province du Bas-Ouélé, le marché central de la chefferie Ezo à Dakwa a pris feu lundi dernier en pleine journée. Le bilan fait état de 200 étagères et hangars brûlés, 6 boutiques construites en dur, plusieurs autres construites en matériaux de fortune ont été consumées par les feux, dont l'origine reste inconnue jusque-là. Le point avec Jacques Moukonkolé.
Dakwa est le chef-lieu de la chefferie Ezo dans le territoire d'Ango. Il est situé à 284 km de Bouta, chef-lieu du Bas-Ouélé. Outre le marché, 50 cases et maisons d'habitation et tous ceux qui s'y trouvaient sont partis également en fumée. Jusque-là, l'origine du feu reste un mystère. Suite à cette catastrophe, les occupants de ces habitations ont passé la nuit à la belle étoile. Selon Antoine Gambolipaye, rapporteur de l'Assemblée provinciale du Bas-Ouélé, ce drame s'est produit au moment où les élèves rentrer des écoles. Heureusement, aucun mort n'est à déplorer, sinon une perte considérable des biens matériels. L'élite d'Ango demande aux personnes de bonne volonté d'apporter une assistance aux victimes de cet incident en leur construisant notamment des hangars. Pour le moment, l'autorité provinciale n'a pas encore donné sa position par rapport à ce drame. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
La CENI plaide et insiste pour son autonomie financière et son indépendance vis-à-vis du gouvernement. Elle a fait savoir lors de la publication hier mardi à Kinshasa du calendrier d'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Sankuru. Le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Patricien Seya, a présenté ce calendrier réaménagé au cours d'un point de presse organisé au siège de la centrale électorale. Selon le porte-parole de la CENI, cette élection se déroulera donc le 16 avril prochain. Elle s'est prêtée au jeu de questions et réponses des journalistes sous la polémique autour des finances de la CENI. Des détails avec Jeff Ngoy.
Outre la publication du dit calendrier, Madame le rapporteur a réagi à quelques questions d'actualité liées aux élections. Elle a précisé que la CENI ne va pas se livrer au jeu de ping-pong avec les membres du gouvernement, car la centrale électorale a une feuille de route qu'elle doit suivre pour respecter le timing constitutionnel des élections de 2023. Selon Patricien Seya, ce sujet intervient suite à la réclamation de notre autonomie administrative et financière, parce que nous voulons être réellement indépendants. Son autonomie administrative et financière est encore indiquée à l'article 84 de son règlement intérieur. Celui-ci parle des types de budget de la CENI, dont le budget de rémunération, de fonctionnement, d'investissement et des opérations. Mais jusqu'à présent, a-t-elle dit, la CENI n'a pas reçu le budget des opérations, encore moins des investissements. S'agissant de la mutualisation des opérations d'identification de la population, enrôlement des électeurs et recensement, le porte-parole de la CENI a déclaré qu'au regard de leur feuille de route et des contraintes, s'il faut s'en tenir à cette mutualisation, c'est fort possible que l'on soit en retard avec les élections.
Le parti politique Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, a célébré hier mardi 15 février ses 40 ans d'existence. Ici à Kinshasa, cette célébration a été organisée par les différentes ailes du parti, en l'occurrence l'UDPS Tshisekedi, le parti présidentiel et l'UDPS Bruno Tshibala. Paul Matendo a suivi ces cérémonies pour Radio Okapi.
L'UDPS Tshisekedi met en avant les 37 ans de lutte pour accéder au pouvoir. C'est ainsi que les dirigeants de ces partis prônent la non-violence, comme le dit Franck Nzolameso, président de la fédération Tiki Umbu.
Il y a beaucoup de partis politiques passés qui ont aujourd'hui, disons, ils ont arraché le pouvoir par une voie de violence. L'UDPS a quand même cherché à avoir le pouvoir par une voie pacifique qui aujourd'hui. Nous sommes là, grâce à Dieu là qui a fait à ce que nous puissions aujourd'hui être aux affaires.
Pour sa part, Bruno Tshibala, président d'une autre tendance, lui appelle à l'organisation des élections dans le délai constitutionnel.
Et pour le processus électoral en cours, l'organisation des élections dans le délai doit être de strict respect. Nous n'accepterons jamais un moindre, comme on le dit, dans un monde devenu célèbre, glissement il faut organiser les élections à la date.
Bruno Tshibala rappelle qu'outre lui-même, ce parti a été créé entre autres par Étienne Tshisekedi, Joseph Ngalula, Anaclé Matanda, dont l'un des objectifs était d'éradiquer la dictature.
Actualité internationale.
Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a été investi ce mercredi président du Burkina Faso par le Conseil constitutionnel lors d'une cérémonie retransmise par la télévision nationale, 3 semaines après avoir pris le pouvoir par un coup d'État. Je jure devant le peuple burkinabé de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution, l'acte fondamental et les lois du Burkina, a déclaré Paul-Henri Damiba en prêtant serment devant le Conseil. La Russie a annoncé ce mercredi la fin des manœuvres militaires et le départ de certaines de ses forces de la péninsule ukrainienne annexée de Crimée, où le déploiement des troupes alimentait les craintes d'évasion de l'Ukraine. Les unités du district militaire du Sud ayant achevé leur exercice tactique sur les bases de la presqu'île de Crimée retournent par voie ferrée vers leur base d'attache, a annoncé le ministère russe de la Défense, cité par les agences russes, rapporte également l'agence France Presse.
L'invité.
L'invité de ce journal est le chargé de programme de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Ndamana Dominique parle des signes de dégradation des paysages forestiers dans la province du Maniema. Il s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur Ndamana Dominique, bonjour.
Bonjour madame.
Vous venez d'organiser un atelier de lancement de la restauration des méthodologies d'évaluation des opportunités et la restauration des paysages forestiers. Quel est l'état de lieu des paysages forestiers au Maniema?
Ok, merci. S'il faut le dire en un mot, le paysage de la province du Maniema présente des signes de dégradation. Et lorsque un paysage présente des signes de dégradation, il faut agir. Il faut trouver des réponses pour agir. Et ce sont ces réponses que nous sommes venus discuter avec les parties prenantes au niveau local pour que ensemble on trouve des éléments de solution et solutions durables pour répondre et inverser la tendance.
Qui menace ces paysages forestiers?
En fait, les menaces proviennent de deux sources. Il y a les menaces au niveau naturel et les menaces dues à l'action humaine. On appelle les menaces anthropiques. Les menaces anthropiques sont beaucoup plus les menaces sur lesquelles il faut apporter les solutions parce que les menaces viennent de l'homme et les solutions doivent aussi être apportées par l'homme.
Et qu'est-ce que vous préconisez?
En fait, ce que nous préconisons, c'est l'ensemble des éléments de réponse que nous avons discuté avec l'ensemble des parties prenantes impliquées dans le projet PIRED. Cet ensemble d'éléments permettra à la GIZ d'agir là où il faut agir pour créer l'impact, pour créer, n'est-ce pas, le changement dans ces différentes zones dégradées. C'est pas toutes les zones qui sont dégradées, mais les cartes que nous avons vues ont montré qu'il y a une poussée, il y a un front, n'est-ce pas, de savane qui est en train d'avancer vers le nord.
Quelle doit être la contribution de tous ces acteurs dans la restauration du paysage forestier?
En fait, les acteurs que nous avons invités ne sont pas invités au hasard. C'est des acteurs qui jouent un rôle, les parties prenantes qui jouent un rôle dans le travail de restauration dans la zone. Parce que le problème ici, c'est ceux qui utilisent directement l'espace, les terres, ceux qui exploitent le bois, ceux qui font de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, ceux qui font de la chasse. Ce sont ceux-là qui sont beaucoup plus ciblés comme étant des acteurs directs dans l'utilisation de l'espace dans la zone. Et nous avons donc pris la peine d'inviter toutes ces parties prenantes pour que ensemble nous définissions les défis, les moteurs, n'est-ce pas, de cette dégradation et ensemble trouver des options de solutions qu'il faut apporter pour répondre à ces problèmes. En fait, ce n'est pas une décision, c'est une résolution que nous avons toute prise. Nous avons défini ensemble les défis, les signes, les moteurs de dégradation. Nous avons donc formulé ensemble aussi les objectifs pour lesquels on doit restaurer la zone. Ici, on a dit, par exemple, qu'on restaure pour améliorer la qualité de l'agriculture, pour accroître les rendements agricoles, pour accroître le couvert forestier, pour protéger les fleuves. On restaure pour avoir beaucoup de bois en vue de faire la carbonisation, donc c'est un reboisement destiné à la production du bois énergie. Donc les gens savent ce qu'il faut faire, les gens savent là où ils peuvent orienter l'action de la GIZ dans la zone pour qu'il y ait plus ou moins d'équilibre écologique dans la zone et pouvoir atteindre, n'est-ce pas, les objectifs de protection de l'environnement et les objectifs, n'est-ce pas, d'amélioration du cadre de vie des populations du paysage de Maniema.
Mais comment impliquer cette population dans la restauration du paysage forestier?
Oui, la restauration est centrée sur les gens, sur les communautés locales. Cette restauration ne peut réussir que si on implique les communautés à la base, du début du processus, de la réflexion que nous avons eue aujourd'hui, jusqu'au moment où nous allons mettre en œuvre les interventions de restauration qui seront identifiées. Donc, sans les populations, il n'y a pas de réussite en matière de restauration des paysages, surtout une restauration qui est liée à l'utilisation de l'espace. Les experts travaillent dans leur bureau, les politiques sont dans leur bureau, les seuls groupes de parties prenantes qui sont actifs dans l'action, c'est les communautés locales. Si les communautés locales n'ont pas d'intérêt, ne sont pas informées, si elles ne s'engagent pas, toute restauration, entre guillemets, est vouée à l'échec.
Monsieur Endamana Dominique, merci.
Merci, madame.
Endamana Dominique, chargée de programme de l'Union internationale pour la conservation de la nature, était notre invité avec Florence Kizalunga. Il a parlé des signes de dégradation des paysages forestiers dans la province du Maniema. Fin de ce journal, vous pouvez le réécouter sur toutes les plateformes numériques de Radio Okapi.